très, très difficile pour moi de mettre un titre à cette deuxième partie. Nous avons vu ensemble ce matin une confiance extraordinaire, la confiance que le roi Ézéchias a accordée à Dieu alors qu'il a reçu une lettre de menace. Cet après-midi, nous allons voir une deuxième lettre. Je ne sais pas comment j'ai trouvé peut-être le mot « bonasse ». On sait que c'est un terme marin, hein, quand la mer est bonasse et qu'elle est très, très calme. Et je ne sais pas si on pourrait dire ainsi, je ne maîtrise pas assez bien le français, mais le roi Ézéchias va recevoir une deuxième lettre. La première lettre est une lettre de menace, et la deuxième lettre est une lettre très paisible, mais extrêmement dangereuse. Et nous allons regarder à cette lettre ensemble, si vous le voulez bien. Vous expliquer un petit peu le contexte. Le roi d'Assyrie s'est réveillé un matin, 185 000 de ses vaillants soldats, généraux, caporals, ses braves, sont morts. Il repart chez lui et un homme, on vient le tuer. Et du jour au lendemain, le roi Ézéchias devient un héros national, n'est-ce pas? Il a crié à Dieu, il a mis sa foi en Dieu, il a mis sa confiance en Dieu. Et parce qu'il a cru en Dieu, il a amené la lettre, on l'a vu ensemble ce matin, il a amené la lettre de menace des Assyriens. Et avec le prophète Isaïe, ils sont ensemble les deux dans le temple et ils crient au secours à Dieu. Et Isaïe vient lui dire, « T'auras rien à faire, Dieu va se battre pour toi. » Et le Seigneur vient et le Seigneur frappe ses ennemis et tout bascule. L'Empire assyrien va s'effondrer bientôt, dans pas long, sera même plus un empire. Et Dieu bénit le roi Ézéchias, la Bible dit, vous pourrez le lire, c'est écrit dans Chroniques, aussi dans les rois. Et Dieu va faire de lui un grand roi. Il est devenu un héros. Et là, il va arriver quelque chose de très, très, très dangereux, pour chacun d'entre nous. La Bible dit, le peuple d'Israël va faire une erreur très, très grave. La Bible dit, ils apportèrent des présents au roi Ézéchias. Vous voyez où je m'en vais? Ça ne dit pas, ils apportèrent des présents à l'Éternel. Ils apportèrent des présents au roi Ézéchias. Et là, le roi est devenu grand à leurs yeux. Et c'est vrai que Dieu a élevé des hommes dans l'Ancien Testament à certaines reprises. C'est vrai que Dieu dit à Josué, je te rendrai grand aux yeux d'Israël. C'est pas que Dieu veut rendre des hommes grands, c'est qu'on sait que Josué était une prophétie de Jésus. Donc si Dieu a rendu Josué grand aux yeux d'Israël, c'était pas pour qu'il y ait un grand homme en Israël, c'était parce qu'il était une prophétie de Jésus qui doit être grand. Si Dieu a élevé Joseph, ce n'est pas parce que Dieu voulait faire de Joseph un grand homme, c'est parce que Joseph était aussi prophétique de Jésus-Christ qui allait venir. Et quand Dieu élève un homme, c'est toujours pour représenter Jésus qui va venir, qui lui doit être grand. Parce qu'aux yeux de Dieu, il faut faire très attention, il faut toujours lire l'Ancien Testament avec les lunettes du Nouveau Testament. Si on lit l'Ancien Testament sans la révélation du Nouveau Testament, on va faire des graves erreurs en tant que chrétien. Et puis, même en tant que chrétien aujourd'hui. Pour Dieu, tous les hommes sont égaux. Et là, le peuple d'Israël fait une erreur très grave. Ça ne dit pas qu'ils amenèrent des présents à l'Éternel, ça dit qu'ils amenèrent des présents au roi. Maintenant, ma sœur, si vous êtes touché par la prédication du pasteur de dimanche dernier et que vous voulez lui amener une jolie tarte aux pommes, que Dieu vous bénisse. Je suis pas en train de dire que la tarte aux pommes est péché. Mais faites attention. Et on va le voir ensemble dans un instant. Il faut faire attention entre apprécier et glorifier. Entre dire merci et élever. Et parfois, on a tellement peur de dire merci à quelqu'un pour le travail qu'il a fait dans la maison de Dieu qu'on voudrait tellement pas qu'il devienne orgueilleux qu'on lui dit même pas merci pour ce qu'il a fait. Comprenez-vous? Mais la Bible dit même de rendre honneur à qui on aurait dû. Parfois, on peut rendre l'honneur à quelqu'un. Merci, mon frère, pour avoir fait la louange aujourd'hui. Amen. Merci au frère que personne voit et qui tient ma voix dans ses mains. Parce que s'il coupe le contact, vous m'entendrez plus. On peut lui dire merci. On peut dire merci aux sœurs qui passent la serpillière, qui font le ménage dans l'église. Merci. Et vous pouvez leur dire merci. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un merci qui va faire de nous des orgueilleux. OK? Mais il y a quelque chose là ici que le peuple d'Israël a fait qu'il faut pas faire. quand ils apportèrent des présents au roi, dans leur cœur, ils se sont dit, Dieu a répondu au roi, alors ça doit être vraiment un grand homme. Voyez-vous? Et c'est là l'erreur qu'ils ont fait. Et là, quelque chose est arrivé. Et Dieu a élevé Ézéchias. Quand même, la Bible dit que Ézéchias était un homme de Dieu. Mais, et Dieu, j'aimerais même rajouter, Dieu a élevé Ézéchias. La Bible dit que Dieu l'a rendu riche et puissant. Ça, c'est entre Ézéchias et Dieu. Tu peux pas toucher à ça. Ça se passe entre lui et Dieu. Dieu a décidé de l'honorer, de le rendre grand, de lui donner des richesses, de lui donner de l'or, des joyaux, des bijoux. Et ça, tu peux pas toucher à ça, c'est entre Ézéchias et Dieu. Mais là, il va arriver une lettre très dangereuse. On va voir ensemble le chapitre 39 d'Isaïe. Vers cette même époque, donc là, je viens de vous expliquer un petit peu le contexte. Mérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, fit parvenir un message et des présents à Ézéchias, car il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias se sentit flatté, notez bien ce mot, se sentit flatté de la venue des envoyés et leur fit visiter le bâtiment où l'on conservait les objets précieux, l'argent, l'or, les aromates, les huiles parfumées. Il y a des bijoux, il y a plein de choses dans cette salle. C'est le coffre au trésor du roi. Il leur montra aussi tout son arsenal militaire et tout ce que contenait ses trésors. Il n'y eut rien dans son palais ni dans tout son royaume qu'Ézéchias ne leur fit voir. Verset 3. Ils repartent et le prophète arrive. Alors le prophète Ésaïe se rendit auprès du roi Ézéchias et lui demanda, « Qu'ont dit ces gens et d'où sont-ils venus te rendre visite ?» Ézéchias lui répondit, « Ils sont venus de très loin, de Babylone, pour me voir. » Ésaïe reprit, « Qu'ont-ils vu dans ton palais ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui se trouve dans mon palais. Je ne leur ai rien caché de tous mes trésors. » Alors Ésaïe leur dit, « Écoute ce que dit l'Éternel. Un jour, ils viendront, ils vont tout prendre. » Suivez-moi bien maintenant, cet après-midi. Il y a un grand avertissement pour chacun d'entre nous. La première lettre, la lettre de menace, la lettre d'oppression, Ézéchias l'a amené à Dieu, on l'a vu ce matin. Mais la deuxième lettre, il ne l'a pas amené à Dieu. Et là, il a fait une erreur. La première lettre, il la déploie devant, dans le temple et dit, « Seigneur, vois leur menace. » Et Dieu intervient. Mais là, il y a une deuxième lettre qui vient. Et la Bible dit, « Il se sentit flatté. » C'est écrit, on l'a lu. Et quand Ésaïe vient le voir, il dit, mais c'est quoi cette lettre et tout? Et qui sont venus ces gens? Regardez ce qu'il dit. Il dit, « Ils ont voulu me voir, moi. » Moi. Moi. Pas toi, moi. Pas Dieu, moi. C'est moi que Dieu a guéri. C'est moi que Dieu a aidé. Moi, Dieu a répondu à mes prières, à moi. Moi, il y a la faveur de Dieu sur ma vie, à moi. Et là, j'ai reçu une lettre. Je suis tellement imbu de moi-même que j'ai pas vu la lettre passer, mais c'est une lettre du diable. Et c'est une lettre extrêmement dangereuse. Et j'aimerais vous dire ceci. C'est un grand avertissement pour nous. Parce que Dieu répond quand on crie à lui. Amen. On l'a vu ce matin. Mais une fois que Dieu nous a répondu, restons humbles. Parce que Dieu répond à tous ceux qui crient à lui et qui croient en lui. Le fait que Dieu réponde à un homme ne rend pas cet homme grand. Suivez-moi bien. Mais nous, les chrétiens, on a un problème avec la nature humaine. On aime avoir des héros. Est-ce que j'ai raison? Si j'ai raison, dites amen. Quand j'étais à l'aéroport de New York, à l'automne dernier, vous savez, on vend des journaux dans les aéroports et on vend des magazines, des revues. Ils ont une section aux États-Unis que j'ai jamais vue en France. Heroes, à l'aéroport, JFK. Un mur, presque haut comme ici. Et c'est que des revues, chaque revue à peu près 50 pages, mais des héros, des hommes. Des héros politiques, des héros en business, des héros de succès financier, des héros sportifs, des héros de la mode, toutes sortes de, sur tous les sujets que tu peux imaginer, tu peux arriver et acheter des magazines de héros parce qu'on est aux États-Unis, on est dans la culture du héros. Mais c'est pas américain, c'est humain. On aime avoir des héros. Et le peuple d'Israël a eu un héros, c'est le roi Ézéchias. Et eux, ils ont fait une erreur, et Ézéchias a fait une erreur. Ézéchias a oublié que Dieu lui a fait grâce. Et que Dieu répond, mais qu'il ne le méritait pas. Parce qu'Ézéchias est tombé très malade, on ne l'a pas vu ensemble. Ézéchias est tombé très malade. Malade, la Bible dit, jusqu'à la mort. Et le prophète Ésaïe vient le voir et lui dit, le Seigneur te dit, prépare ta succession, tu vas mourir. Ézéchias tourne son visage contre le mur et il pleure. Il dit, Seigneur, je ne veux pas mourir maintenant. Le prophète Ésaïe est parti. Mais le prophète Ésaïe n'est pas encore sorti du palais que Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, j'ai été touché par la prière d'Ézéchias, retourne voir, il va vivre encore longtemps. Et Dieu le guérit. Et là, le peuple, qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple dit, waouh! Nous, notre roi, quand il prie, Dieu lui répond. Et combien d'entre nous ont fait ça? Lui, quand il prie pour les malades guérissent. Et dans la phrase, il manque quelqu'un. Il manque Jésus. Ce n'est pas la personne qui a prié pour les malades qui guérit les malades. C'est Jésus. Voyez-vous? Ah, mais cette sœur, tu devrais lui demander de prier pour toi. Parce que cette sœur, quand elle prie, Dieu l'exauce. Qu'est-ce qu'on fait là? On est en train d'élever une sœur. Et on n'élève plus le nom de Jésus. Et ça, c'est une lettre qui est très dangereuse. C'est la lettre qui vient flatter les cœurs. Et la Bible dit, le roi Ézéchias a été flatté de la lettre. Et le roi Ézéchias a oublié quelque chose que Dieu lui avait dit. Parce que lorsqu'il était malade et tout auprès de mourir, écoutez-moi bien, Dieu lui a dit, je vais te guérir, mais dans un but. Pas deux, dans un but. Je vais te guérir pour que tu retournes dans ma maison. Ah! Il n'a pas dit, je vais te guérir pour que tu deviennes grand. Je vais te guérir pour que tu ailles dans ma maison, dans le temple, dans la maison de Dieu. Maintenant, à quoi servait le temple? La Bible dit, Dieu a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc, Dieu dit à Ézéchias, je ne vais pas te guérir pour que tu aies encore des belles années et que je voudrais que tu aies une vie de succès et je veux que tu sois connu et je veux que tu sois le plus grand roi d'Israël après David, comme on a vu ensemble ce matin, et je vais faire de toi un grand homme. Dieu n'a jamais dit ça à Ézéchias. Dieu a dit, je vais te guérir pour que tu continues à chercher ma face. Je vais te guérir pour que tu retournes encore dans mon temple chercher ma face. Mais quand la lettre de Babylone est arrivée, il n'a pas été au temple. Il n'a pas cherché la face de Dieu. La première lettre, il l'a amenée à Dieu. La deuxième lettre, il se l'est gardée pour lui. Et il faut amener à Dieu quand les gens veulent nous percer, mais il faut aussi amener à Dieu quand les gens viennent nous flatter. Parce que c'est parfois même plus dangereux. Vous me suivez bien? La délégation va arriver. Elle arrive de Babylone avec des cadeaux, des présents, tout ça. Et la Bible dit, Ézéchias leur montra. Il les fit entrer dans une pièce, dans un bâtiment qu'on ne connaît pas, mais la Bible dit qu'il y avait un bâtiment où il avait mis tout l'or, tout l'argent, les joyaux, les aromates, les parfums. Les parfums, à l'époque, ça valait extrêmement cher. Et il a montré à cette délégation, « Regardez, j'étais un petit roi, mais je suis quelqu'un maintenant. » Quelle erreur. T'es rien sans Dieu. Je suis rien sans Dieu. On n'est rien sans Dieu. Tu as commencé ta vie, tu n'avais rien. Tu as suivi Dieu. Dieu a commencé à te bénir. Il t'a donné une femme. Il t'a donné des enfants. Il t'a permis d'être propriétaire d'une maison. Où on dit qu'en France, un très haut pourcentage de Français ne seront pas propriétaires. Et on dit que dans la génération qui va venir, je pense que ça, d'après le Figaro, à peu près seulement 25% des jeunes adultes pourront être propriétaires en France. Beaucoup ne pourront pas l'être. Toi, tu t'as béni. Toi, tu es propriétaire. Et puis, il y a peut-être beaucoup de belles choses que Dieu t'a données, mais n'oublions jamais d'où on vient et comment tout est une grâce de Dieu. Et souvent, l'erreur qu'on fait, écoutez-moi bien, l'erreur qu'on fait, c'est que le miraculé devient le héros. Et c'est pas Dieu le héros. Ouais. Ah, toi, Dieu t'a guéri. Waouh! Ah, Dieu répond à tes prières. Ah, toi, t'es vraiment quelqu'un. Non, t'es rien. C'est celui qui répond à la prière qui est quelqu'un. C'est celui qui guérit qui est grand. Voyez-vous? Et c'est ça l'erreur qu'il a fait, Ézéchias. Et regardez l'erreur qu'il a fait. Il a amené les hommes voir tout, sauf un endroit. Il y a un endroit où il n'a pas amené les visiteurs. C'est dans la maison de Dieu. Incroyable, hein? N'est-ce pas incroyable? Il leur a montré tout ce qu'il concernait lui, mais il a oublié que tout ce qu'il concerne lui vient de lui en haut. S'il avait amené la lettre, s'il avait eu l'humilité de dire « je suis orgueilleux », parce que ça prend beaucoup d'humilité pour dire « je suis orgueilleux », mais ça prend beaucoup d'orgueil pour dire « je suis humble ». Vous me suivez? Un petit jeu de mots, mais très important. L'orgueilleux dit « je suis humble », mais l'humble dit « je suis orgueilleux ». Et si le roi avait dit « Seigneur, j'ai des problèmes avec mon orgueil. Seigneur, ça me flatte. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Seigneur, je t'amène une lettre. Ils s'en viennent. Ils viennent me visiter. Et Seigneur, je sais que tout vient de toi, mais là, vraiment, je suis séduit. Je suis flatté par cette situation. » Et puis, je vais vous dire les choses très cash cet après-midi. Il y a un collègue au bureau qui dit que tu es jolie et que tu es belle. Attention. Si tu es jolie, tu es belle, ça vient de Dieu. Et c'est une grâce de Dieu. Et si quelqu'un dit que tu travailles bien, c'est une grâce de Dieu. Si le patron dit « je suis fier de toi, vraiment, tu as un don, tu es très intelligent dans ton boulot, tu vas aller loin dans la vie, tu pourrais devenir le patron de la société un jour », ne laisse pas ta tête gonfler. Prends la lettre. Prends toutes sortes de flatteries qui peuvent venir. « Ah, mais toi, tu as vraiment du potentiel. Mais toi, tu as un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne. » Prends tout ça, parce que c'est extrêmement dangereux, et amène-le à Dieu. Si Ézéchias avait amené la lettre à Dieu, Dieu lui aurait dit, « N'oublie pas, tout vient de moi. » Et quand ils vont venir, « Parle-leur de moi, rends-moi la gloire, dis-leur que tu étais un petit roi et que tu as crié à un grand Dieu. » Et que ton grand Dieu n'est pas comme leur Dieu. Ton Dieu a répondu, dis-leur que tu mourrais dans ton lit et que ton grand Dieu t'a sorti de ton lit et t'a remis sur pied. Dis-leur que tu étais pauvre et que c'est moi qui t'ai béni. Et dis-leur que c'est Dieu et après, prends-les par la main et amène-les dans ma maison. Ça n'aura pas été la même histoire. Ces hommes seraient retournés à Babylone. Ils n'auraient pas dit, il y a un grand roi en Israël. Ils auraient dit, il y a un grand Dieu en Israël. Et là, la gloire aurait été à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Nous, les hommes, on est en danger constamment. On est en danger par les menaces que l'ennemi peut amener dans nos vies, mais on est aussi en danger par les flatteries que les hommes peuvent amener dans nos vies. Toutes sortes de flatteries. Il faut faire très attention dans le monde chrétien de ne pas élever un homme. Dieu a placé des hommes en autorité, c'est vrai. Il ne faut pas toucher l'autorité. On est appelé à s'apprécier les uns les autres, on l'a vu en introduction, c'est vrai, on peut dire merci. Mais on est appelé à toujours voir Dieu au-dessus de toute chose. Que s'il y a une bénédiction sur un homme, c'est Dieu. Si Dieu a répondu à une femme qui a crié à lui, c'est Dieu. Amen. Et que c'est Dieu qui est derrière ces choses-là. Vous savez, on a toutes sortes de langage. Je réfléchissais, j'étudiais. Et maintenant, je suis heureux parce qu'il y a des pasteurs qui sont là, qui m'écoutent, qui étudient la parole de Dieu. Vous venez me corriger si je me trompe. Mais l'onction dans l'Ancien Testament, c'est pas la même chose dans le Nouveau Testament. Nous, on vit dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on parle de l'onction. On va dire, ah, l'onction de Dieu. Et aujourd'hui, en 2016, on a un langage évangélique, je vous dis, qui n'est pas biblique. Il faut l'arrêter. Où on va dire, ah, tel pasteur, ah, lui, il a l'onction. Je regarde dans le Nouveau Testament Et dans le Nouveau Testament, la Bible parle d'un seul oint. Quelqu'un qui est oint, c'est quelqu'un qui a l'onction. C'est quelqu'un qui est investi de puissance et du secours de Dieu pour une mission, c'est un oint. Dans l'Ancien Testament, un grand prêtre, un prophète, un roi pour avoir l'onction de Dieu. Dans le Nouveau Testament, ça n'existe plus comme ça. Il y a un seul qui est oint, c'est Jésus-Christ. Et il faut faire attention, parce que même on mesure l'onction sur les hommes de Dieu en fonction de notre appréciation. J'ai raison ou j'ai tort? Ça fait mal, mais il faut dire la vérité. À lui, j'aime bien quand c'est lui qui prêche à lui la l'onction. Mais quand lui prêche, ça me touche moins, il a moins d'onction. T'es pas biblique, t'es hors contexte. Parce que premièrement, il n'y en a pas un qui est plus oint que l'autre. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. C'est Jésus qui est oint. Deuxièmement, Jean dit dans sa première lettre que tous les enfants de Dieu ont l'onction en Jésus-Christ. Alors, la prochaine fois que tu entends quelqu'un dire « Oh, ma soeur, je suis allé sur Internet. » J'ai téléchargé un message. Un grand prophète de Dieu. C'est lui le prophète de l'or. Mais lui, il a vraiment l'onction. Ah! Direct, tu lui dis non, t'es complètement content. Déjà, t'es pas biblique. Quand tu vois une affiche quelque part, n'importe où, il a l'onction, tu peux la mettre à la poubelle. On est hors contexte. Le seul qui a l'onction, c'est Jésus. Et son corps est l'Église, et tous les enfants de Dieu en Jésus-Christ ont l'onction aussi. Pourquoi je souligne ceci? Parce qu'on fait des grands hommes et des petits hommes. Parce que lui, il a une grosse Église, c'est un grand homme de Dieu. Mais il y a un missionnaire à Oman, présentement, que je ne peux pas vous dire son nom. Et ça fait bientôt 7 ans qu'il est là-bas. Il est à Oman, juste en dessous de l'Arabie Saoudite. Il ne peut pas évangéliser parce que s'il évangélise, il se fait attraper et on lui coupe la tête. Donc, ce qu'il fait, il attend que tous les habitants se couchent le soir et la nuit, au risque de sa vie, il met des Nouveaux Testaments dans des boîtes aux lettres de tous les musulmans qui sont là-bas. J'ai une amie qui est allée le visiter secrètement. Elle a dit, en 5 ans de service fidèle à Dieu, il n'a aucun témoignage que quelqu'un est venu à Jésus-Christ. Ah, mais il n'a pas l'onction. Ah, mais c'est un petit homme. Mais lui, là-bas, c'est un grand homme de Dieu parce que lui fait des grandes choses pour Dieu. Et là, on est complètement à côté de la plaque. Et la lettre qui a fait tomber Zécias va nous faire tomber aussi. Il faut faire attention. En Jésus-Christ, il n'y a pas de grand homme ou de petit homme. En Jésus-Christ, la sœur ici à l'Église que personne voit, que personne connaît, qui se lève à tous les matins, qui prie pour la ville de Angers, qui prie pour l'Église, qui prie pour ses frères et sœurs, et qui ne fait pas de bruit, qui ne le dit à personne, elle a autant l'onction que le pasteur qui est en train de prêcher. Amen. C'est comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Attention de ne pas flatter et attention de ne pas accepter de flatterie. Parce qu'à un moment donné, ce qui peut arriver dans notre vie, c'est que j'ai crié à Dieu et il m'a répondu. Il m'a délivré des Assyriens. Je suis tombé malade. Il m'a guéri. Il m'a relevé. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'assurance. On se dit, waouh! Franchement, on se le dit même pas. C'est tellement subtil, on s'en rend pas compte. Mais on croit qu'on est devenu quelqu'un. Mais franchement, Dieu me répond. Et la faveur de Dieu sur ma vie. Le Seigneur est avec moi. Dieu est bon pour moi. Et là, on prend de l'assurance. Vous savez qu'est-ce qui arrive quand on prend de l'assurance? On commence à aller voir la vie des autres. Et on commence à dire aux autres, « Hey, mon frère, moi, je sais comment il faut faire pour que Dieu bénisse ta vie. Moi, quand je crie à Dieu, moi, Dieu me répond. » Tu vois? Et je t'aime. Toujours dans l'amour, hein? Je t'aime. Et je veux t'aider. Et je vois des choses dans ta vie qui bloquent la faveur de Dieu. Je sais que tu ne m'as jamais demandé mon avis, mais je le donne quand même. Tu ne m'as jamais demandé conseil, mais je me suis investi d'une mission Parce que Dieu m'a répondu, j'ai pris beaucoup d'assurance. Et le roi a pris de l'assurance. Et c'est écrit dans la Bible. Et la Bible dit, et le prophète lui dit, tout ce que tu leur as montré, tu vas le perdre. Tu vas le perdre. Et il faut garder une chose. Dieu veut nous bénir, c'est certain. Dieu veut répondre à nos prières, c'est certain. Mais une chose est vraie, c'est que Dieu entend le cri du malheureux et il lui répond. Il entend le cri du pécheur et il lui répond. Il t'a pas répondu, il ne m'a pas répondu parce que j'ai des meilleures méthodes que quelqu'un d'autre, parce que je suis plus spirituel que quelqu'un d'autre, parce que ma vie est sainte. Attention, dans notre jargon évangélique. Mets ta vie en règle avec Dieu et après Dieu va te répondre. C'est pas biblique. Jésus a guéri des gens qui l'ont crucifié. Je ne suis pas en train de dire que les gens doivent rester dans le péché. Dieu veut les sortir du péché. Mais la Bible nous montre des hommes pécheurs qui étaient dans le mal, qui commettaient le mal, qui ont crié à Dieu dans leur désarroi et Dieu leur a répondu. Je ne dis pas qu'ils sont sauvés, je ne dis pas qu'ils vont au ciel. Mais Dieu est tellement bon que Dieu ne répond pas à nos prières en fonction de notre sanctification. Ce n'est pas biblique. Dieu répond à notre prière en fonction de notre confiance quand on crie à lui. Il y a des gens qui ont crié à Dieu, ils ont mis leur confiance en Dieu pour un moment, malheureusement. Malheureusement, juste pour un moment. Après, ils sont retournés à leur péché et c'est triste. Mais Dieu leur a quand même répondu. Alors, quand Dieu me répond à moi, Christian Robichaud, que jamais je me mette à penser, « Ah, mais moi, c'est parce que je suis vraiment un homme de Dieu. » Moi, c'est parce que vraiment, je suis près de Dieu. Moi, j'entends la voix de Dieu. Moi, je suis spirituel. Moi, ma vie est en... Moi, Dieu me bénit parce que voici comment je vis ma vie au quotidien, tu vois. Moi, je prie autant d'heures par jour. Moi, j'étudie la Bible. Moi, je fais pas ça, les autres le font. Moi, j'écoute moins la télé, je suis un peu plus spirituel. Moi, je vais à la réunion de prière. Et elle y va pas. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez ce qu'on fait? On est en train de créer une religion. On est en train de créer des rituels, de la religiosité, et on est en train de s'éloigner de Dieu. Maintenant, bien sûr que Dieu veut que j'aille à la réunion de prière. Bien sûr que Dieu veut que je prie, je cherche sa face à tous les jours. Bien sûr, Dieu veut que je sois dans sa parole. Mais une chose est certaine, Dieu ne répond pas parce que je le mérite. Dieu répond parce qu'il est bon, et parce qu'il fait grâce, et parce qu'il répond à tous ceux qui crient à lui. C'est certain que Dieu ne donne pas tout ce qu'on veut. Mais il nous donne ce qu'il y a de mieux. Il ne nous donne pas toujours ce qu'on veut, mais il nous donne ce qu'on a besoin. Dieu n'a pas promis de nous donner le luxe, mais il a promis de répondre à nos besoins. Amen? C'est certain. Mais que jamais l'orgueil, à un moment donné, s'installe dans notre cœur et qu'on se laisse croire que Dieu nous bénit, que Dieu nous répond parce qu'on est quelqu'un. Et c'est là qu'Ézéchias a vraiment échoué. Ça m'a touché, cette parole. Pour ma propre vie, premièrement. Ézéchias a reçu deux lettres. La lettre de menace, il est allé à la maison de Dieu, il a crié à Dieu. Mais quand on est venu le flatter, il n'est pas allé à Dieu. S'il avait été à Dieu avec la deuxième lettre, le Seigneur l'aurait gardé. Amen. On va faire quelque chose en terminant aujourd'hui. C'est une parole très simple. Mais alors, peut-être tu dis, mais Pasteur Christian, qu'est-ce que je dois faire? Ça nous arrive tous d'être flattés à un moment donné, dans notre conscience. Il faut faire comme pour la première lettre. Viens à Dieu. Tu te sens flatté par quelque chose? Viens au Seigneur et amène-le. Sois vrai avec Dieu. Amen. Moi, j'ai cette conviction, je priais avec un homme ce matin à la fin du culte, puis il parlait, puis il dit, je m'excuse, mais il dit, je parle à Dieu de telle façon, et parfois je lui dis ceci ou cela, puis il dit, je m'excuse de lui parler. Non, tu t'excuses pas, Dieu veut que tu sois vrai. Tu avais ça sur le cœur, tu lui dis. Tu t'en voulais à Dieu, tu lui dis, Dieu veut qu'on soit vrai avec lui, qu'on soit caché avec le Seigneur. Il faut être comme ça avec le Seigneur, il faut être sincère. Dieu ne cherche pas une belle formule de prière, Dieu cherche un cœur. Amen. Dieu veut que tu pries avec ton cœur. Et si quelque chose vient dans ta vie et te flatte, amène-le au Seigneur. Dis-lui la vérité. Seigneur, l'orgueil est en train de monter dans ma vie. Et Seigneur, je te l'amène. Je te l'amène parce que c'est dangereux. La Bible dit d'un roi, j'ai oublié son nom, mais la Bible dit, il s'éleva jusqu'à sa chute. Fascinant, hein? Il s'éleva jusqu'à sa chute. Que Dieu nous donne un cœur qui demeure toujours dépendant de lui. Grand roi ou petit roi, pauvre ou riche, en santé ou malade, dans la détresse ou dans la paix, je veux dépendre de Dieu. Amen. Alléluia. On va faire quelque chose de particulier cet après-midi. Vous allez prier, nous allons prier les uns pour les autres. Amen. Vous n'êtes pas trop gênés pour ça? Amen. Vous allez trouver une personne. On va se lever tous ensemble. Vous allez prendre les mains de cette personne et vous allez prier le message qu'on vient de prêcher. Vous allez dire, Seigneur, je te prie pour ma sœur en terminant aujourd'hui. Je te prie pour mon frère. Je prends ses mains. Garde son cœur, Seigneur. Que dans les bonnes lettres et les mauvaises lettres, les lettres de menace ou qu'est-ce qui semble bonasse, Seigneur Jésus, que ma sœur t'amène toutes les lettres. Amen. Si quelqu'un la flatte, Seigneur, si l'orgueil vient, Seigneur, garde-nous humbles en toutes choses. Amen. Hallelujah. Allons-y, prions les uns pour les autres en terminant aujourd'hui.